Pathologie naturelle par le père Philippe à Saint-Joseph le 1er mai 85.
C'est la fête du travail aujourd'hui. Alors, il faudrait voir dans une lumière de sagesse divine ce qu'est le travail. Nous le verrons. Pas tout de suite, mais nous le verrons. C'est justement le sujet un peu qu'on doit traiter. Après l'éternité qui nous fait regarder toutes les créatures dans la temporalité, qui nous fait comprendre ce qu'est l'aspect historique de l'homme. Dieu n'est pas historique. C'est quand même important de se le rappeler aujourd'hui, parce que le point de vue historique prend quelquefois comme une espèce de valeur absolue. Alors il faut comprendre que le point de vue historique, c'est quelque chose de très relatif, parce que le point de vue historique touche le point de vue du conditionnement et ne touche pas la finalité. C'est relatif au temps et à la durée. Et cependant, c'est très important de souligner ce caractère historique de l'homme pour montrer le développement que Dieu lui donne. Dieu lui laisse un temps, une durée pour qu'il se développe, pour que sa personnalité puisse atteindre l'éternité. C'est pour ça que Dieu nous laisse un certain temps. Il nous laisse du temps et il nous laisse de l'espace pour que nous puissions atteindre l'éternité. Alors, certains, c'est très rapide, d'autres, c'est plus lentement. S'ils laissent sur la terre plus longtemps, c'est parce qu'ils n'ont plus besoin, leur développement est plus lent. Alors ils les laissent plus longtemps sur la terre pour qu'ils atteignent l'éternité. Tandis que d'autres, une Sainte Catherine, en 33 ans, atteint l'éternité. Une petite Thérèse atteint l'éternité si rapidement. Une Marthe Robin, ça a mis plus longtemps. Alors vous voyez comme c'est difficile de juger la valeur de l'historicité, de la valeur du point de vue temporalité et historique par rapport à l'éternité. Est-ce que je puis dire ça d'une façon absolue, que certains ont vécu avec une intensité telle qu'ils ont rejoint l'éternité si rapidement. D'autres, il leur a fallu beaucoup plus longtemps. Je ne dis pas qu'ils étaient paresseux, mais il leur a fallu beaucoup plus longtemps. C'est très mystérieux. Je crois que ça regarde un point de vue de sagesse divine qu'on ne pourra comprendre que dans la sagesse de Dieu. Parce que ce n'est pas seulement pour eux, mais c'est aussi pour tous ceux qui vivaient autour. Quelqu'un comme Marthe Robin, c'était très net. Un chêne, c'est pour son milieu. Et si Dieu laisse des saints longtemps sur la terre, c'est pour le milieu. C'est pour leur sainteté, en premier lieu, mais c'est aussi pour le point de vue d'historicité qui est liée au milieu. C'est là où on voit toute la complexité. Parce que le temps et l'espace, le temps et le milieu dans lequel on doit vivre fait partie justement de ce caractère relatif de l'homme par rapport à l'éternité. Je voudrais aujourd'hui regarder quelque chose qui est très important aussi. Dans la lumière de l'acte créateur, nous pouvons mieux comprendre l'unité du monde physique. Alors là, il faudrait demander aux astronomes de développer leur point de vue et projeter sur leur point de vue une lumière de sagesse. Ce serait très intéressant. Et le sens ultime de la matière. Alors ça, c'est très important. Dans l'acte créateur, hein, puisque toujours cette vision de sagesse est toujours dans l'acte créateur, qui est lumière et amour. Tout ce que fait Dieu, il le fait dans sa contemplation. Donc, tout a la marque de sa contemplation. Le monde physique est pour l'homme dans la vision de sagesse. Hein. C'est la grande vision des pères de l'Église. Ils le disaient, eux, dans un point de vue de foi, mais nous pouvons le dire dans un point de vue de sagesse, au point de vue purement philosophique. Vous savez bien cette perspective qu'il faudrait relever ici, cette perspective de Freud, déclin de la civilisation, quand Freud dit « on a détrôné progressivement l'homme » pour montrer tout le caractère relatif de l'homme et donc lui enlever sa dignité. On a d'abord montré que la Terre n'était plus le centre de l'univers, vieille vision des pères de l'Église. On a montré que l'homme n'était plus ce qu'il y avait de merveilleux et qui descendait directement du ciel par son âme. Il est le dernier moment de l'évolution animale. Et enfin, on montre que son psychisme est tellement délabré que tout se ramène à un complexe, tout se ramène à ce noyau central, le complexe d'Œdipe. C'est évident que quand je regarde ça, je vois trois grandes dégradations. Je crois que c'est très important dans notre monde d'aujourd'hui, parce que ça, c'est assez joli comme vision, c'est assez bien vu. C'est une vision de sagesse. À la manière de Freud, puisque c'est une vision dans l'ordre de l'historicité, du développement historique, de philosophique, d'une sagesse laïcisée, c'est-à-dire d'une sagesse qui n'est plus une sagesse qui part de Dieu, mais une sagesse uniquement dans le devenir. Et alors on voit ce poids terrible qui fait que progressivement l'homme est dégradé. Je crois que nous devons relever le défi et montrer cette vision de l'unité de l'univers dans une vision de sagesse. Le savant ne peut pas parler au sens absolu de l'ordre dernier de l'univers. Il reste dans le conditionnement de sa science. Il reste dans le devenir de sa science. Il devine bien qu'il y a quelque chose d'autre. Mais en tant que savant, il ne peut pas. Sa méthode scientifique ne lui permet pas d'avoir une vision de sagesse dernière, ultime. Parce que, en tant que savant, il n'atteint pas le Créateur. Il s'y dispose et ne l'atteint pas. C'est comme Moïse qui voit de loin la terre promise, mais il n'y entre pas. Tandis qu'au contraire, le propre de la philosophie première, qui est sagesse, permet alors de donner cet ultime regard sur notre monde physique. Alors on va préciser quelques points de sagesse à l'égard de ce monde physique. Toutes les œuvres de Dieu impliquent ordre, mesure et poids. La grande vision augustinienne. Saint Augustin le dit à partir de l'Écriture, mais nous pouvons le dire aussi en philosophe. Je peux dire que toutes les œuvres de Dieu relevant de sa contemplation impliquent nécessairement ordre, mesure et poids. Cette phrase de saint Augustin que saint Thomas a repris du reste et que nous devons garder toujours dans notre cœur. Je crois que c'est absolument nécessaire si on veut avoir une vision de sagesse sur notre monde physique. Implique un ordre. Il y a un ordre caché dans l'univers. Et nous savons que cet ordre est très difficile à découvrir parce que nous voyons plus les effets chaotiques que l'ordre profond. Forcément. De façon générale, c'est comme ça. Et les psychologues le soulignent avec raison. Les manifestations extérieures nous émeuvent plus que ce qu'il y a de plus intérieur. Alors les manifestations extérieures, si vous voulez, quand le volcan crache, c'est plus émouvant que de chercher la cause des crachats, n'est-ce pas ? C'est évident, c'est beaucoup plus difficile de chercher la cause. C'est ça qui est important, les manifestations extérieures. Et d'une façon générale, c'est comme cela. On est beaucoup plus sensibilisé aux manifestations extérieures. Et les manifestations extérieures, ordinairement, impliquent un certain désordre. C'est très curieux. Psychologiquement, c'est net. C'est les désordres qu'on voit. Dans une communauté, si vous prenez un regard sociologique, et psychologique, vous voyez les désordres. À certains moments, ça se manifeste plus, la montée du printemps, la descente de l'automne, vous voyez des grands désordres. Il y a des accalmies en plein été et en plein hiver. Il y a un certain rythme qu'on retrouve tout le temps. Et alors, en communauté, ça se voit en gros. Quand on est seul, ermite, on peut faire croire que tout est parfaitement ordonné, et on le croit. On dit c'est merveilleux cette vie d'ermite, c'est extraordinaire, c'est merveilleux, il n'y a jamais de nuage. C'est toujours le ciel bleu, quand il sort de sa maison, c'est pour sourire aux gens, c'est merveilleux, il y a un accueil étonnant. Tandis que dès qu'on est en communauté, c'est beaucoup plus dur, c'est beaucoup plus difficile. C'est vrai que c'est très curieux que le point de vue communautaire multiplie les manifestations extérieures, tandis que quand on est seul, on arrive encore à cacher certaines choses. Alors pour l'univers, dans sa totalité, voyez bien, comme c'est difficile aujourd'hui de découvrir l'ordre de l'univers. Et c'est vrai, il y a un secret dans l'ordre de l'univers. Mais il y a un ordre. Alors, quel est cet ordre ? Les anciens avaient une vision de l'ordre de l'univers qui était très particulière. Lisez le De Cello d'Aristote. Ça vaut la peine. C'est un livre, c'est un roman extraordinaire. C'est ce qu'il faudrait voir maintenant, vous voyez. Il faudrait voir l'or de l'univers tel que le Decello nous le donne. On pourrait regarder l'or de l'univers tel que le Timé nous le donne. Ce sont deux livres à voir en parallèle, le Timé et le Decello. Et ce sont deux livres qui nous donnent une vision de l'or de l'univers. L'une par le point de vue de l'efficacité et la cause exemplaire, l'autre qui essaie par le point de vue de la finalité. Je dis qui essaie. Et l'or de l'univers pour Aristote implique cette vision de la quintessence. Alors, c'est ça qui serait très intéressant de savoir, dans quelle mesure pouvons-nous garder dans une vision de sagesse ce point de vue de la quintessence. Voyez bien ce que c'est que la quintessence. Hein. Il faut toujours compter 5. 4 éléments plus le cinquième. La quintessence qui vient en cinquième, non pas comme la dernière roue du chariot, alors qu'il ne sert à rien, non, au contraire, comme la cause exemplaire des 4 éléments. La quintessence, c'est justement, nous y reviendrons, c'est cette matière incorruptible qui est la matière des astres, qui est la matière du monde céleste. Nous, nous sommes sous le point de vue sublunaire, et c'est tout dire. Nous sommes en dessous de la lune, alors sublunaire, hein, et par le fait même, nous sommes lunatiques, n'est-ce pas ? Et nous subissons tous les mouvements de la lune. Plus ou moins, on est comme les chiens qui aboient à la pleine lune, vous savez, c'est extraordinaire, de voir ça. Et là, il y a des gens qui sont très influencés à certains moments. Il ne faut pas les toucher quand c'est la pleine lune. Surtout pas. Il faudrait voir justement la courbe d'une communauté si à chaque moment de la pleine lune, ça c'est le rôle du prieur, à chaque moment de la pleine lune, il voit davantage des phénomènes particuliers se manifester. Les volcans, les terrains volcaniques de la communauté qui à ce moment-là commencent à éructer. C'est vrai, on est sous la lune et on est dépendant de la lune et du soleil de façon très étonnante. Tandis que ceux qui sont au-dessus du soleil et de la lune ont cette espèce d'immense privilège, je parle dans la vision des anciens, ont cet immense privilège d'avoir un mouvement parfait, circulaire. Nous, nous sommes commandés par le haut et le bas. Or, le haut et le bas, enfin, c'est le mouvement du feu et de la terre. Le feu, il monte, la terre, elle descend. Alors, vous voyez bien que s'il y a le haut et le bas, le feu, puis la terre. Tandis que la quintessence, c'est ce qui enveloppe tout. Et c'est cette vision de l'ordre, vous voyez, qui est commandée par 5. Puisque s'il y en a deux extrêmes, c'est normal qu'il y a deux intermédiaires. Hein. Il y a toujours des métaxus, il ne peut pas être autrement. Alors il y a le métaxu près du feu, l'air, et le métaxu près de la terre, l'eau. Ceci est justifié, du reste est découvert, par les sensibles propres. Les 4 éléments dépendent directement des sensibles propres. Et le 5e aussi. Parce que la lumière, c'est un sensible propre. C'est pour ça que c'est pas si bête. Faites attention. Il ne faut pas trop vite dire tout ça, c'est de la vieillerie. Ça doit être mis au Capharnaüm. Non, 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 non. Il y a quelque chose de beaucoup plus intelligent qu'on le pense par rapport à l'homme et par rapport à la sensibilité de l'homme. C'est le monde physique. Le monde physique, c'est le monde qui entoure notre sensibilité. Nous sommes en harmonie avec ce monde. Nous avons beaucoup de peine à le comprendre, mais nous sommes en harmonie avec ce monde. Et c'est à travers ce monde des quatre éléments et du cinquième élément qu'on essaie de comprendre l'ordre. Et alors, dans ce cinquième élément, on essaie de découvrir tous les mouvements célestes. Et c'est commandé par le point de vue du mouvement local, c'est-à-dire le mouvement local, le mouvement circulaire. Le mouvement du haut et du bas, c'est un mouvement qui constamment, vous voyez, c'est en danse. Nous sommes en danse, étant sublunaire. On monte et on baisse. Parce qu'il y a du feu en nous, il y a de la terre en nous. Alors quand le feu domine, ça monte. Quand la terre domine, ça descend. Et perpétuellement, ça revient comme ça. C'est pour ça qu'il y a un mouvement incessant. Il n'y a pas de repos. Il n'y a pas de repos. C'est incessant. C'est un devenir constant. Et ce devenir constant est commandé par un devenir parfait, qui est le mouvement circulaire. Le mouvement circulaire est au-delà de la corruptibilité. Il faut, dans notre monde physique, trouver la stabilité. Mais c'est la vision des anciens. Il faut dans notre monde physique trouver la stabilité, l'ordre, la mesure et le poids. Donc il faut dans ce mouvement perpétuel trouver une stabilité. Quelle sera cette stabilité? Cette stabilité, elle sera commandée par ce mouvement circulaire. Parce que ce mouvement circulaire, il est toujours dans le mouvement, mais comme il est circulaire, il est repos. Forcément. On trouve, un mouvement circulaire trouve à l'intérieur de son mouvement son repos, tandis qu'un mouvement en danse ne le trouve pas. Il ne peut pas le trouver. Alors il y a cette vision que tout notre univers est commandé par ce mouvement circulaire qui est le mouvement de la quintessence, puisque chaque mouvement présuppose un corps. Et le mouvement est commandé par le corps, le mouvement naturel provient d'un corps. Le corps est ce qui est mobile, qui implique le devenir. Alors, il y a les corps célestes, qui sont des corps incorruptibles, et puis, il y a les corps corruptibles, sublunaires. Et ceci, c'est pour essayer de découvrir l'ordre de notre univers, qui est commandé par le mouvement. C'est un ordre dans le mouvement. Le point de vue de la mesure, il faut un premier. Il faut une mesure. Alors, la mesure, c'est évident, le premier mouvement circulaire qui est la mesure de tous les autres mouvements circulaires. Et cette mesure de ce mouvement circulaire, lui, il est éternel. Donc, mouvement circulaire éternel. Et parce qu'il est éternel, ce mouvement, il peut être la mesure. Il est éternel, il y a donc quelque chose en lui de stable. Il continue toujours, d'une certaine manière, pas de commencement et pas de terme. Très très curieux comme vision. Ça c'est la mesure. Mais c'est au fond l'admiration des anciens pour le ciel, pour la voûte céleste. Je me souviens, c'était au Palais des Papes, c'est déjà assez longtemps, la première fois que j'avais été à Avignon voir le Palais des Papes. On entrait, il y avait le guide qui nous faisait visiter, on entrait dans la cour intérieure, il y avait pas mal de gens qui voulaient visiter. Alors un guide, avec l'accent merveilleux du pays, il nous regardait, il nous tenait comme ça. Alors il commençait toujours en disant... Regardez cette voûte admirable. Tout le monde se demandait un petit peu. Regardez cette voûte admirable. Elle a été faite par un architecte qui n'a pas été à l'école. Et regardez la voûte céleste. Et ça, c'est très très joli parce que c'est au fond ça. Les anciens avaient, nous n'avons plus ça, c'est ça qui est terrible. Nous n'avons plus cette admiration pour l'univers. Parce qu'on croit le connaître et on croit le mesurer. Dès qu'on mesure quelque chose, l'admiration diminue. Il n'y a plus d'admiration, on le connaît. Mais le gosse, quand il connaît quelque chose, non, c'est fini. On le met dans sa poche, parce qu'on le connaît. Tandis qu'au contraire, c'était très beau. On voyait tous les appareils de photographie qui se préparaient pour faire la photographie de la voûtée. Mais dès qu'on a montré le ciel, les appareils de photographie ont disparu. Ça montrait très bien comment l'appareil de photographie empêche l'admiration. Vous voyez, c'est extraordinaire, parce qu'on mesure, pas la photographie, on mesure, on retient, on garde dans sa poche, on n'a plus besoin de regarder, tandis qu'on connaît l'admiration. Et ça, c'est les anciens. Il y avait une première contemplation qui était la contemplation de notre univers. Et c'est peut-être le premier moment analogué de cela. Et ça, c'était commandé par ce point de vue du ciel. Le mouvement circulaire uniforme qui commandait tout. Et ce premier mouvement commandait tous les autres mouvements. Alors, je ne vais pas expliquer tous ces mouvements successifs, c'est intéressant, mais ce serait très intéressant de voir qu'est-ce que nous pouvons garder de cela. Il y a quelque chose à garder. C'est difficile à voir exactement. Mais il y a quelque chose à garder, parce que notre univers physique nécessairement est ordonné. Il y a un ordre. Il y a un ordre dans le mouvement. Puisque tout le monde physique, c'est un devenir. Dans le devenir, on peut découvrir un ordre. Le devenir n'est pas seulement anarchique. Le devenir n'est pas seulement anarchique. Le devenir artificiel est anarchique. Cause des accidents, n'est-ce pas ? Mais le devenir naturel n'est pas anarchique, il est finalisé. La phusis implique un ordre, une finalité. Et la phusis de tout notre monde, la nature de tout notre monde céleste, c'est la nature dans ce qu'elle a de plus noble. Comme nature, hein ? De plus noble, comprenez bien. L'esprit n'est pas présent, mais ça reflète et ça manifeste l'esprit. Alors, il faut redécouvrir dans cet univers l'ordre du mouvement comme tel. L'unité du mouvement. Pour les anciens, c'était le mouvement circulaire qui pouvait être seul le mouvement parfait. Donc, était nécessairement le premier mouvement. C'était le mouvement circulaire. Parce que celui-là, d'une certaine manière, le terme et le point de départ se rejoignaient. Donc il avait quelque chose qui dépassait le point de vue de la succession pure qui a toujours une certaine rupture. Il n'y a pas de rupture. L'ordre ne veut pas de rupture. Il faut découvrir un ordre dans le monde physique, dans le monde du devenir. La mesure, c'est le premier. Alors, quel est ce premier corps qui est mesure de tout ? C'est la première question qu'on doit se poser au point de vue philosophique. Hein, puisque s'il y a un ordre, il y a une mesure. Ça ne peut pas être autrement. S'il y a un ordre, il y a une mesure. S'il y a un ordre dans le monde physique, dans le monde du devenir, il doit avoir une mesure dans le monde du devenir. Et il y a un poids, c'est la finalité. Je crois que ce sont les grandes questions qu'il faut se poser, même si on ne donne pas de solution tout de suite. Hein. Il y a des quantités de questions philosophiques devant lesquelles, dans le monde d'aujourd'hui, on doit rester devant une question. Mais il faut se la poser. Il faut se la poser, c'est comme cette question, on viendra tout à l'heure à propos de la matière, certaines questions qu'on doit se poser tout le temps. Alors, on doit se poser cette question, quelle est dans notre monde physique la mesure du corps, du monde physique, du monde en devenir ? Alors, je me demande, toujours en réponse avec Franck, parce qu'il faut quand même répondre à ça. Ce sont ces questions-là, vous savez, qu'on vous fourre dans les pattes en vous disant très très nettement, Saint Thomas, les pères de l'Église, avaient cette vision complètement périmée aujourd'hui, puisque toute la physique moderne montre que tout cela c'est fichu. Alors il faut dire attention, la sagesse des anciens demeure. La physique et les sciences contemporaines ne suppriment pas le regard de sagesse. Et le regard de sagesse ne repose pas sur les conclusions scientifiques, mais le regard de sagesse repose sur la connaissance que nous pouvons avoir de l'homme. Alors, contrairement à ce que dit Freud, je dirais juste l'inverse. Si on a relativisé le ciel, et c'est vrai, on n'a plus le même regard à l'égard du ciel, du soleil et de la lune. Nous ne sommes pas des adorateurs du soleil. Certaines sectes, vous savez bien, qui existent un peu partout, du reste en Suisse, il y en avait, les adorateurs du soleil. Ça reprend les vieilles choses anciennes. Alors, il faut se lever tôt pour être au premier moment. On serait tous sur le toit, parce qu'il faudrait le toit. On serait tous là, attendant tous les matins, juste 5 minutes avant. 5 minutes, on serait tous là. Il ne faut surtout pas arriver en retard, parce qu'alors votre journée est fichue. Il faut être pour le premier regard du soleil. Évidemment, quand il y a des nuages, c'est plus difficile. Ça ne fait rien. À ce moment-là, je ne sais pas ce qu'on fait. Il va y avoir un tocsin qui dit le soleil se lève. Alors, au-delà du visible, on voit l'invisible. Mais c'est quelque chose d'assez particulier. On adore le soleil. Nous avons relativisé tout ça. C'est très vrai. Alors on dit, on l'a laïcisé. Non, on ne doit pas laïciser. On doit avoir un regard de sagesse. Alors le regard de sagesse implique une attitude religieuse, puisque c'est en référence avec le Créateur. Notre univers ne doit pas être laïcisé. Parce qu'aujourd'hui, très souvent, on dit laïcisé, c'est-à-dire la conquête de l'homme. Attention, l'univers a été créé par Dieu. Alors, il n'est pas sacré, je suis d'accord, mais il n'est pas laïque. Laïcisé, ça veut dire relatif à l'homme. Oui, il est relatif à l'homme, c'est très vrai. Mais l'homme aussi respecte cet univers. Parce que ce n'est pas lui qui l'a fait. C'est très difficile comme attitude hein, vis-à-vis du monde physique. Je crois que nous pouvons dire que, étant donné qu'on a relativisé, et c'est vrai, on a relativisé notre monde physique, le monde de la quintessence, on a relativisé cette espèce de vision très spéciale sur l'univers. Je crois qu'on peut dire que c'est le corps de l'homme. Alors, vous voyez, c'est ça qui est très beau. C'est que cette relativisation pour donner au corps humain toute sa dignité. Quand le Saint-Père, dans un de ses écrits, dit qu'il faudrait une philosophie du corps, je dirais qu'il faut une vision de sagesse du corps humain. Pas une biologie, mais une vision de sagesse du corps humain. Alors là, je crois. Je crois qu'on devrait reprendre dans notre monde aujourd'hui, face à Freud, face à cette espèce de relativisation complète du corps humain, reprendre une vision de sagesse. Et cette vision de sagesse consisterait à montrer que le corps humain, parmi tout le monde physique, devient la mesure. Il est la mesure. Pourquoi ? Parce qu'il est le corps le plus parfait. Il est un corps vivant et il est un corps qui est temple de l'esprit. Alors j'ai dit ici avec un petit esprit, hein. Oui, bien, petite, le temple de l'Esprit, avant d'être le temple de l'Esprit Saint, il est temple de l'Esprit. Mon corps manifeste mon intelligence et mon amour. Et si mon corps manifeste mon intelligence et mon amour, il a quelque chose d'une grandeur unique. Et il fait comprendre comment le corps humain devient mesure de tout le monde physique. Vous voyez que c'est juste l'inverse de la position freudienne. Lui, il montre que le fait que la Terre ne soit plus le centre du monde, ça diminue l'homme. Mais non, ça ne diminue pas du tout. Que la Terre soit centre de l'univers ou pas de l'univers, la mesure, c'est pas la Terre. La mesure, c'est quelque chose d'autre que les quatre éléments. Et les anciens l'avaient senti. En disant que la Terre tourne autour du Soleil et par le fait même elle n'est plus centre du monde, c'est croire que c'est les quatre éléments qui nous donnent la mesure. Pour les anciens, c'est la quintessence. Et pour nous, c'est notre corps humain, temple de l'esprit. Donc il y a quelque chose à travers le corps qui fait que le corps humain est spirituel. Il est transformé par l'esprit. Oui, j'aimerais prendre la comparaison, vous voyez, le suaire de Turin a été traversé par un corps glorieux. Et c'est pour ça qu'il a des marques indélébiles. Notre corps est traversé par l'esprit, puisque l'esprit habite notre corps. Et c'est pour ça qu'il y a quelque chose dans notre corps humain qui est irréductible au corps de l'animal. Et ça, on le sait très bien aujourd'hui, hein. L'industrie pharmaceutique, elle fait quelquefois de grosses, grosses bêtises, parce qu'elle oublie ça. Alors toutes les expérimentations qu'on fait sur l'animal, quand on le transporte sur l'homme, ça fait des effets tout à fait différents. Parce qu'il y a dans le corps humain quelque chose de tout à fait spécial. Je ne peux pas, et ça la phrase d'Aristote reste très vraie, je ne peux pas connaître le corps humain sans connaître l'âme spirituelle. Ça c'est très fort. Je ne peux pas connaître le corps humain sans connaître l'âme spirituelle. Vous voyez les limites de la biologie à ce point de vue-là. Et d'une certaine manière, la grossièreté de la biologie, elle est très affinée dans l'infiniment petit du côté matériel, mais elle est très grosse parce qu'elle oublie la véritable lumière. Et la véritable lumière, c'est le corps c'est l'âme spirituelle. Qui donne à notre corps une dignité unique. Et ça, je crois que c'est très, très important de se rappeler ça, dans une vision de sagesse. Hein. C'est une vision de sagesse. Ce n'est pas une vision scientifique, c'est une vision de sagesse. Mais la science est en attente de ça. Quand, de fait, au point de vue invention des produits pharmaceutiques, on s'aperçoit qu'il y a un hiatus entre les applications pour l'animal et puis pour l'homme. On doit se poser une question, pourquoi ? Le médecin, qui est plus que le biologiste, parce que le médecin regarde l'homme et la santé de l'homme. Quand le médecin regarde la santé de l'homme, il sait très bien que l'aspect biologique sur lequel je regarde le point de vue de tout ce que les réactions chimiques qui existent dans une chimie organique et qui existent dans le point de vue de l'homme sont distinctes des autres. Il y a quelque chose qui est irréductible. C'est très intéressant, vous voyez, ce serait là les deux aspects de la médecine. Regardez le corps par l'esprit, regardez le corps par la matière. Et il faut toujours le double regard. Toujours. Mon corps fait partie de l'univers. Mon corps fait partie de l'univers. Il est lié à la matière. Et mon corps a quelque chose de plus, il est lié à l'âme spirituelle. De sorte que je crois que je puis dire, dans une vision de sagesse, je puis dire que le corps humain, c'est la mesure. Alors c'est évidemment très difficile, vous comprenez, parce que quand je dis la mesure, je veux dire que c'est le corps le plus parfait. Mais le corps le plus parfait demanderait l'unité. On est tellement habitué de voir que la mesure est unique. Et c'est pour ça qu'Aristote voit la mesure unique dans le cercle, le mouvement circulaire le plus parfait, le plus uniforme. On tend vers l'uniformité. La mesure demande l'unité. Ici, je suis devant cette chose très curieuse et je dois me demander si c'est contradictoire ou pas contradictoire. Parce que cette vision d'unité et d'uniformité, c'est peut-être encore un reste de platonisme dans Aristote. On doit peut-être aller encore un peu plus loin que dit Aristote. Parce que c'est un reste de platonisme, chercher l'unité. Quand Aristote critique Platon au niveau politique, on dit il a recherché l'unité avant le bien commun. Alors je renverse la critique aristotélicienne de Platon sur Aristote lui-même. Et dans votre monde physique, vous avez cherché l'unité avant de chercher le bien. Puisque c'est l'uniformité du premier mouvement circulaire. Et c'est ça qu'il regarde comme première chose, l'unité de la mesure. Et il regarde l'unité de la mesure, oubliant le point de vue de la finalité, d'une certaine manière. Le point de vue du bien. Je ne sais pas si vous voyez bien cette chose, parce que c'est important pour essayer de comprendre comment le corps humain n'a pas d'unité. Je ne peux pas dire que c'est le corps le plus grand qui mesure tous les autres corps. Parce qu'il y a des armoires ambulantes qui sont moins habitées par l'esprit que des toutes petites armoires qui sont très habitées par l'esprit et donc qui qualitativement, vous voyez, sont qualitativement, ont une unité plus grande. Et c'est vrai ça, parce que la grandeur c'est une qualité. Alors est-ce que c'est le corps le plus géant? Tendons à faire des géants et nous aurons un monde plus qualitatif. Non. Ce n'est pas la grandeur, puisque la grandeur reste de l'ordre des sensibles communs, ce n'est pas la grandeur qui donne l'unité la plus grande, non, c'est la qualité. Et quel est le corps le plus qualitatif? Je ne peux pas, je suis devant la multiplicité. La multiplicité des individus, la diversité des races et la multiplicité des individus. Alors c'est très connu. Est-ce que le corps humain, alors je repose la question, parce que c'est là la question qu'on doit se poser dans une vision de sagesse, est-ce que le corps humain qui implique cette multiplicité d'individus peut-il encore être dit mesure? Vous voyez bien la question. La mesure implique l'unité. Parce que la mesure, c'est toujours un peu néoplatonicien, hein. Ça fait appel à la cause exemplaire, et par la cause exemplaire, toute notre tendance néoplatonicienne reprend très vite, parce que nous sommes tous un peu néoplatoniciens. Hein. Par nature, nous sommes néoplatoniciens. Soyez un tout petit peu sauvage, vous redeviendrez néoplatoniciens. Parce que par nature, on l'est. On a une tendance à ça. On a une tendance à exalter la mesure. Nous l'avons vu à propos de la quantité. La connaissance par la mesure. Et donc on a une tendance à chercher l'unité un peu dans l'uniformité. C'est la tendance de toute communauté. On veut être régulier, l'uniformité. Et on croit que c'est ça la qualité suprême. Regardez ce régiment qui passe. Ils pédalent tous du même pas, n'est-ce pas? Exactement. Et le pas de loi, hein, c'est extraordinaire. Alors, la même hauteur, pas un centimètre de plus. Et alors, c'est beau, c'est extraordinaire, cette uniformité absolue. Est-ce que c'est ça l'unité du monde physique? Non. L'unité du monde physique, c'est la lumière. C'est pas la quantité, c'est la lumière. La lumière est qualitative. Alors, l'unité mesure du monde physique. Quand je dis le corps humain, c'est l'aspect qualitatif du corps humain. Or, la qualité implique la diversité. L'uniformité, c'est quantitatif, c'est l'égalité. Tandis qu'au contraire, la qualité implique la diversité. Et je suis en face d'un ordre analogique. Dans la diversité, je découvre l'unité. Vous voyez qu'il y a là quelque chose de très particulier qu'il faut essayer de saisir. Et ne pas avoir une vision uniforme de notre monde physique et comprendre qu'un monde physique, parce qu'il est un par la lumière, c'est la lumière qui fait l'unité de notre monde physique. Si c'est la lumière qui fait l'unité de notre monde physique, il faut comprendre que le corps humain, c'est ce qu'il y a de plus lumineux parmi tous les corps. Vous savez ce que disait Platon quand il dit que la lumière sort des yeux.
Théologie naturelle par le père Philippe à Saint-Joseph le 22 mai 85.
Continuons de pénétrer dans ce regard de sagesse. L'avantage de cette étude, c'est qu'il n'y a pas beaucoup de références historiques, de topiques historiques. Cherchez bien dans la scolastique, vous ne trouverez pas. Et pourtant, je crois que c'est très très important. Mais on trouverait, dans toute une perspective philosophique, de l'existentialisme, de l'ontologisme, des quantités d'éléments qui seraient du reste intéressants de noter. Je n'ai pas fait, parce que ça, c'est... Ça regarderait les topiques historiques, mais ce serait très intéressant de voir ça. Alors, faites-le vous-même. Parce que, de fait, hein, si la philosophie réaliste, c'est la philosophie, parce que c'est celle qui conduit à la sagesse, elle doit, par le fait même, rendre compte de toutes les erreurs aussi. C'est-à-dire, elle doit assumer tout ce qui dans les autres modalités philosophiques, alors je pense ici à l'existentialisme, je pense ici à la phénoménologie, ou à l'ontologisme. Parce que l'ontologisme représente